Initiation maçonnique, initiation chrétienne. Alors nous allons nous référer particulièrement à un auteur bien connu des milieux maçonniques qui est Oswald Wirth, qui est sans cesse réédité, et en voici quelques citations. Donc voilà ce que dit Oswald Wirth. La franc-maçonnerie est appelée à refaire le monde. La tâche n'est pas au-dessus de ses forces, à la condition qu'elle devienne ce qu'elle doit être. Donc Oswald Wirth dit à travers cette phrase la volonté d'une forme d'hégémonie de la pensée maçonnique sur le monde. La franc-maçonnerie est appelée à refaire le monde. Donc là, nous sommes véritablement dans une volonté de regarder et de reconstruire le monde à travers le regard maçonnique. Voilà ce qu'il dit également. En vous initiant à ces mystères, la franc-maçonnerie vous convie à devenir des hommes d'élite, des sages ou des penseurs, élevés au-dessus de la masse des êtres qui ne pensent pas. Ne pas penser, c'est consentir à être dominé, conduit, dirigé et traité souvent en bête de somme. Donc nous avons une deuxième perspective de la franc-maçonnerie qui est celle de la formation d'élite, celle qui serait au-delà précisément du commun des mortels. C'est un point très important à souligner. Troisième phrase tirée d'Oswald Wirth, eh bien c'est « Le penseur est un esprit libre qu'il n'ait besoin de catéchiser ou d'endoctriner. Le penseur est un esprit libre qu'il n'ait besoin de catéchiser ou d'endoctriner. Le penseur se fait lui-même. Il est le fils de ses œuvres. La franc-maçonnerie le sait, aussi évite-t-elle d'inculter des dogmes. Contrairement à toutes les églises, elle ne se prétend pas en possession de la vérité. » Donc, on peut retirer de cette phrase que la franc-maçonnerie rejette toute forme de dogme, toute forme de pensée qui pourrait être considérée comme une approche de la vérité. Au contraire, le penseur se fait lui-même. Donc c'est à travers sa propre expérience qu'il croit pouvoir réaliser sa maîtrise ou son auto-maîtrise. Donc vous voyez, premier principe, un principe d'hégémonie. Deuxième principe, un principe d'élitisme. Troisième principe, un principe d'auto-création de lui-même. Voilà. Donc la fondation de la franc-maçonnerie moderne date de 1717. Mais nombre d'auteurs la font remonter à la construction du temple de Salomon, voire plus loin encore. C'est à partir donc de ce temple de Salomon. Salomon, on le voit dans la Bible, avait demandé à un architecte, un maître architecte du nom d'Hiram, de venir construire le temple de Salomon. Et donc voilà, c'est là qu'est de ce petit verset biblique que naît toute la perspective de la pensée d'Hiram que nous reverrons plus tard. C'est le fils d'un pasteur calviniste qui dut se réfugier en Angleterre à la suite de la révocation de l'édit de Nantes en 1685, qui s'appelle James Anderson. Et c'est lui, James Anderson, qui est à l'origine de la première constitution de la franc-maçonnerie. Voilà. Donc l'initiation maçonnique se compose essentiellement de trois grades dans l'initiation maçonnique. Apprenti, compagnon et maître. Les autres grades ont été rajoutés par la suite et vont aujourd'hui jusqu'au 33e degré de la franc-maçonnerie. Alors le 33e, ça s'appelle souverain grand inspecteur général. Alors on va voir tout à l'heure les noms que se donnent les différents grades. On va pas les lire tous, mais on va voir un petit peu. Des luttes donc entre obédience maçonnique concernant entre autres les grades initiatiques se sont maintenues jusqu'à aujourd'hui. Toutes les obédiences maçonniques ne reconnaissent pas cette graduation. Nous nous référons donc au rite écossais ancien et accepté dont l'organisation première remonte à 1821 et comporte des loges symboliques des trois premiers degrés et les ateliers supérieurs qui vont du 4e au 18e degré. Le 18e degré s'appelle le degré de la Rose-Croix. titre de Rose-Croix. Et les hauts grades, qui vont du 19e au 30e degré, appelés philosophiques, et les 31e, 32e et 33e degrés, sont appelés administratifs. Alors on va dire quelques mots de ces grades-là, et vous allez voir un peu combien ils sont ronflants. Par exemple, le quatrième degré s'appelle maître secret. Cinquième degré, maître parfait. Sixième degré, secrétaire intime. Alors ensuite, nous avons le neuvième degré, maître élu des neuf. Dixième degré, illustre élu des quinze. Onzième degré, sublime chevalier élu, chef des douze tribus. Ensuite, douzième degré, grand maître architecte. Alors, je vais passer quand même les grades, mais le 18e qui est très important parce qu'il donne accès au haut grade, celui de Rose-Croix, dont nous reparlerons plus tard. Ensuite, le 19e degré, c'est grand pontife ou sublime écossais de la Jérusalem céleste. Voilà. 20e degré, véritable maître de toutes les loges régulières. Ensuite, 22e, chevalier royal H. Voilà. Alors ensuite, vous voyez, 28e degré, j'en passe, hein, bien entendu, chevalier du soleil. 29e, grand écossais de Saint-André. Chevalier Kadosh pour le 30e. Alors les trois derniers, c'est vraiment extraordinaire. 31, c'est grand inspecteur inquisiteur commandeur. 32e, sublime prince du royal secret. Et 33e, souverain grand inspecteur général. C'est dire un petit peu les titres extrêmement ronflants que peuvent se donner la graduation donc de l'initiation maçonnique. Alors, il est à signaler préalablement que la franc-maçonnerie opère une sélection de ses adeptes. La fraternité établie est sélective et exclusive. On ne peut pas rentrer comme ça en franc-maçonnerie. Il faut être préempté. Les francs-maçons disposent de tous les renseignements sur la personne. Il y a trois enquêtes qui sont faites par des frères de la loge et qui demandent pour celui qui voudrait entrer dans le temple, ce qui permet de choisir les bons candidats et d'écarter ceux qui ne répondraient pas aux critères arbitraires de la loge. Il y a donc un vote avant l'adoption et après discussion, éliminant bien entendu toutes les personnes qui pourraient être gênantes. Alors, donc dans cette graduation d'apprenti, de compagnon et de maître, l'apprenti doit chercher dans son initiation d'où il vient. Le compagnon, ce qu'il est. Et le maître, où il va. Donc vous voyez, il y a une graduation philosophique de d'où viens, qui suis-je, où vais-je. En cela, nous pouvons comparer les apprentis aux novices. Cette étape correspond, selon les maçons, à une purification. Elle le conduirait à voir la lumière. Et on va voir comment, progressivement, dans l'accomplissement du rite, eh bien, l'apprenti va être amené à voir la lumière de la loge. Selon la tradition mystique, cette étape est dite, alors je me situe dans la tradition mystique catholique, est dite purgative et correspond au commençant. Nous sommes là en train de faire un parallèle entre l'initiation maçonnique et l'initiation chrétienne. Donc on nous fera un incessant parallèle. Les frères compagnons, par l'usage de la raison, attireraient la lumière de la vérité vers eux, et ça correspond donc aux prophètes dans la tradition religieuse catholique et aux progressants de la mystique. Les maîtres maçons sont des hommes censés être pleinement éclairés, rayonnant de cette lumière, et ils sont comparables donc aux parfaits ou aux unis de la tradition ascétique et mystique catholique. La spiritualité maçonnique pense que cette initiation permet la création de l'homme par lui-même, une auto-création. Et cela correspondrait, selon les termes qu'ils emploient, eux, au Fils de l'homme, au Fils de l'homme. De la création de l'homme par lui-même, nous dit encore Oswald Wirth, naît l'homme perfectionné, le Fils de l'homme. Je cite Oswald Wirth encore dans son ouvrage sur la franc-maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes, donc l'apprenti, le premier tome. Alors on va essayer de voir la graduation précisément de l'initiation maçonnique à travers l'initiation, la première initiation, celle de l'apprenti. Le profane doit subir quelques épreuves initiatiques avant d'être admis en franc-maçonnerie. Tout d'abord, il est isolé dans un lieu retiré, dépourvu de toute lumière naturelle. Et il doit se dépouiller de tout objet métallique qu'il peut porter sur lui, monnaie, montre, bijoux, ceinturon, et les remettre aux frères préparateurs. Donc il est mis, d'une certaine manière, dans un caveau. Symboliquement, l'adepte doit quitter le monde profane et accepter de rentrer en lui-même. Il doit se déposséder de tout élément factice et se libérer de toute opinion reçue. C'est une descente dans la terre. Et nous voyons une première initiation à cette descente dans la terre. On verra qu'il y a quatre éléments très importants dans la symbolique maçonnique. Il y a la terre, l'eau, le feu et l'air. Donc c'est une descente dans la terre et il y a des objets macabres, des fragments de squelettes qui lui signifient la mort à laquelle il doit réfléchir. Il doit méditer le sens de ces initiales qui sont vitriol, qui viennent des cette vitriol vient des alchimistes et signifie, alors en latin, visita interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem, ce qui veut dire en français visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, entre parenthèses, par des purifications, tu trouveras la pierre cachée des sages. Cette pierre, la fameuse pierre philosophale, n'est autre que la pierre cubique des francs-maçons. Une pierre dégrossie, une pierre... comment ?
Comme une pyramide.
Oui, c'est ça. Et puis, progressivement, cette pierre doit être sculptée pour... Voilà. Cette pierre, donc, voilà. La pierre cubique des francs-maçons. Le profane soumis à l'épreuve de la terre est comme la graine qui doit pourrir en terre avant de renaître à la lumière en mettant en jeu les énergies latentes et occultes qu'il porte en lui. On retrouve là des cultes que l'on va retrouver dans des cultes pré-chrétiens, d'initiation au mystère antique. On va retrouver la même dynamique de la graine et de sa germination. Une cruche et de l'eau lui montrent qu'il doit apprendre à se soumettre au strict nécessaire s'il veut renaître à la lumière. Des sentences peuvent être écrites sur les murs du caveau pour lui faire craindre le pire si son intention de rejoindre la franc-maçonnerie n'est pas l'essentiel de sa vie. Un sablier qui rappelle le temps qui s'écoule en dissolvant et un coq qui lui annonce le triomphe de la lumière partagée avec les francs-maçons sur les ténèbres des profanes. Parce qu'il va quitter, à travers cette initiation, les ténèbres dans lesquelles vivent tout un chacun pour rentrer dans ce monde des initiés. D'autres éléments de la symbolique alchimique sont placés devant lui. Deux récipients contenant du sel et du soufre. Le soufre signifie l'énergie expansive ou virile que l'on va retrouver dans le temple parce que le temple, il y a deux colonnes. Une c'est Bose et l'autre c'est Yakim. Donc l'une est considérée comme l'élément mâle, l'autre femelle, un élément d'expansion donc, que l'on va retrouver avec la colonne Yakim, qui est plutôt une colonne de type masculine, positive, etc. Enfin, vous voyez, on va retrouver comme on pourrait trouver le yin et le yang. Et donc voilà. Et le sel permettant la stabilisation avec l'autre énergie que représente le mercure, énergie réceptive ou féminine, que symbolise l'autre colonne du temple, Bose. Tout est dans une extrême symbolique. On est dans une très grande symbolique. homme-femme, positive, négative, énergie réceptive, énergie expansive, etc. Donc, on va rentrer finalement dans une symbolique énergétique. Dans cette ambiance, l'adepte doit réfléchir à son testament, puis rédiger des réponses aux trois questions concernant ses devoirs envers Dieu, lui-même et ses semblables. Mais attention, l'idée de Dieu, du Dieu maçonnique n'est pas celle de la révélation judéo-chrétienne. C'est la conception que l'homme a du vrai, du juste et du bien, mais pour lui-même et en lui-même, indépendamment de toute pensée biblique ou théologique. Oswald Wirth précise, Dieu est ici l'idéal que l'homme porte en lui-même. Il ne s'agit pas de l'idole monstrueuse que la superstition se forge sur le modèle des despotes terrestres. Entre parenthèses, là, il y a toutes les religions révélées. Hein, que les despotes, il y a tous les tenants précisément des églises qui sont considérés ici comme des despotes. Il faut savoir que les choses sont de plus en plus explicites au fur et à mesure qu'on progresse dans la pensée maçonnique. Alors, comme la plante qui renaît, le profane sort de la terre, du caveau dépouillé, débraillé, la poitrine gauche découverte, le genou droit mis à nu, déchaussé, les yeux couverts par un bandeau épais. Vous voyez, il y a une forme de dépossession, d'une certaine manière, de soi-même dans cette... Et les yeux bandés, ignorant quels sont ses futurs frères, tandis qu'il prend un engagement solennel, le récipiendaire fait un saut dans l'inconnu sans savoir vraiment à quoi il s'engage et avec qui il s'engage. Cette initiation crée un lien de dépendance et de subordination complète à l'aveugle. Il est amené à la porte du temple et doit frapper trois coups pour demander qu'on la lui ouvre. La signification de ces trois coups se retrouve dans l'évangile de Matthieu. Demandez et vous recevrez. Ici, c'est la lumière maçonnique que l'apprenti va recevoir. Cherchez et vous trouverez, la vérité maçonnique. Frappez et on vous ouvrira les portes du temple maçonnique. La porte s'ouvre dans le plus grand fracas. Et pour en franchir le seuil, il doit se courber jusqu'à terre. Et Maurice Caillé, dont on parlait tout à l'heure, ancien franc-maçon, disait qu'il a su que cette formule était extraite de l'Évangile quand il assista à une messe dans la basilique de Lourdes, tandis que sa femme était plongée dans l'eau des piscines. Au même moment. Très curieux. Mais là, c'est vraiment... son initiation chrétienne n'a pas été provoquée, hein. Elle a été reçue comme un cadeau de l'Esprit-Saint à un moment inattendu. Et là, c'est là qu'est toute la problématique et la divergence entre l'initiation maçonnique qui est provoquée et cette réception du souffle-saint qui vient gratuitement dans nos vies nous surprendre. Est-ce que je suis clair ? Le récipiendaire doit alors subir un premier voyage dans le temple. Il est toujours les yeux bandés. L'orientation du temple est symbolique et correspond au voyage que doit accomplir l'adepte pour recevoir toute la lumière de l'initiation. Il est guidé dans le temple, il ne voit rien, mais déjà il sent la pointe d'un objet contendant pointé sur sa poitrine. Il est promené, traversant des obstacles, des pièges, de l'Occident au Septentrion, c'est-à-dire que toute l'orientation du temple est symbolique, l'ouest, l'est, le nord, le sud, puis passe par le midi, puis pour revenir ensuite vers l'occident. Là, il est accueilli par des bruits assourdissants, des tremblements, des tourbillons de vent. Après l'épreuve de la terre, c'est la purification par l'air. Il doit quitter ses passions, ses intérêts personnels, et doit donner toute sa confiance dans les frères francs-maçons qui le reçoivent. L'adepte est prêt alors à subir un deuxième voyage marqué par la purification par l'eau, sorte de baptême philosophique. Il entend, toujours aveuglé par le bandeau, le cliquetis d'armes. Il devra combattre les forces contraires à l'esprit des frères-maçons. Et il y a encore un troisième voyage qui attend le récipiendaire. C'est l'épreuve du feu. Il est recouvert par trois fois d'un manteau brûlant. Il marche alors dans le temple sans difficulté et n'entend plus aucun bruit. Il est invité alors à boire le calice d'amertume qui le lie encore davantage à la confiance qu'il doit faire à ses frères et partager en tout point leur destin. On l'invite alors à entrer dans la chaîne d'union des maçons. À ce stade, ayant toujours les yeux bandés, il ne sait toujours pas qui sont ses frères. Il est ensuite conduit à l'autel où le néophyte achève de se lier par un engagement solennel. Il promet, sur son honneur, de garder inviolablement tous les secrets de la franc-maçonnerie et de ne jamais révéler aucun de ses mystères si ce n'est à un bon et légitime maçon. Le bandeau peut alors lui être retiré des yeux. Le temple s'illumine. Les frères maçons, debout dans l'ordre, pointent leurs glaives tenus de la main gauche sur sa poitrine. Des effluves de sympathie maçonnique convergent vers le nouveau frère. D'autres rites sont prévus pour la réception du nouvel adepte, comme la réception de tabliers, de paires de gants. Enfin, tout est extrêmement symbolique. Ces rites, nous dit Oswald Wirth, n'ont aucune vertu sacramentelle. L'apprenti devra se conformer aux obligations qu'il a promis de respecter pour recevoir la lumière. Se taire devant les profanes, garder le secret maçonnique, chercher la vérité, vouloir la justice, aimer ses frères et se soumettre à la loi. Il va sans dire que vérité, justice et loi sont ici d'ordre exclusivement maçonnique. Et Oswald Wirth se fait plus précis quand il dit « La pensée au surplus est elle-même une force qui agit au-dehors de manière mystérieuse. » La pensée est elle-même une force qui agit au-dehors de manière mystérieuse. La pensée peut influencer la volonté d'autrui, sans même qu'elle soit exprimée par la parole ou par l'écriture. C'est très important, cette histoire-là. La pensée est une force. C'est ce que révèle l'étude des lois occultes de la pensée. L'initié, instruit de ces lois, s'applique à se taire. Il se concentre afin d'imprimer à ses idées une plus haute tension. C'est un conspirateur qui dispose du plus puissant de tous les moyens d'action, la pensée dirigée en pleine connaissance de cause. Mais il convient en ces matières de joindre l'exemple au précepte de ne pas enfreindre plus qu'il n'est permis la loi du silence. Eh bien, à travers cette phrase d'Oswald Wirth, nous retrouvons ce qu'est la pensée même de l'égrégore, que l'on va retrouver de manière aussi très forte dans les initiations Rose-Croix. Qu'est-ce que c'est que l'égrégore ? La pensée collective, dans un silence consensuel, mais également fusionnel, peut donner la sensation particulièrement forte d'appartenir à un même corps et donc de provoquer des dynamiques collectives. Tout le monde connaît la hola qu'il peut y avoir dans un stade. C'est assez étonnant comme phénomène, parce qu'on voit la sinusoïde que représente une hola habiter un stade de 60 000 personnes. Il y a quelque chose qui préside à la dynamique de cette hola que l'on peut appeler un égrégore. Nous pouvons aussi voir des égrégores dans le salut qu'il pouvait y avoir à Hitler, à certains moments, vous voyez, où une foule immense, au quart de dixième de seconde, faisait le même geste d'Heil Hitler au même moment. On peut imaginer qu'à cet endroit, pour que chacun soit mu au même moment, par le même geste, il y a une forme de magnétisme collectif qui opère. Eh bien, nous pouvons retrouver ça dans le type de perception qui peut y avoir dans certaines rituel maçonnique ou rose-croix. La franc-maçonnerie se distingue des églises, nous dit encore Oswald Wirth, par ce fait qu'elle ne se prétend pas en possession de la vérité. L'enseignement maçonnique ne comporte ni dogme, ni credo d'aucune sorte. Chaque maçon est appelé à construire par lui-même l'édifice de ses propres convictions. Celui qui a des idées arrêtées et qui tient à les conserver n'est pas un homme de lumière et de progrès. C'est un pontife qui croit savoir et qui a foi en son infaillibilité. Si l'initiation ne parvient pas à le désabuser, c'est qu'il ferme les yeux et tient à rester profane. Profane ou moldu? Moldu, c'est le terme employé dans Harry Potter. Hein, c'est tous ces, voilà, tous ces gros lourds qui n'ont pas accès à l'initiation. Ainsi, le temple maçonnique et les rituels sont truffés de symboles qui peuvent avoir plusieurs sens et de non-sens ultime. Serait le sens ultime des symboles maçonniques serait d'unifier les contraires, de se situer au-dessus de toute idée spécifique, au-dessus de tout dogme, et particulièrement, bien entendu, tous les dogmes qui sont chrétiens, hein, tous les dogmes concernant la révélation chrétienne. Donc, se situer au-dessus de toute idée spécifique, et même au-delà du bien et du mal, de se situer au-delà du bien et du mal apparent, car l'initié sait qu'il dépasse toute dualité contraignante, devenue pour lui autant illusoire qu'accessoire. Donc l'initié, le grand initié, va se situer au-delà du bien et du mal. Donc, on va passer maintenant à l'initiation du compagnon. Nous suivons encore les indications données par Oswald Wirth. Dans son catéchisme, dans son chapitre, qui est intitulé, c'est assez amusant, « Catéchisme interprétatif du grade de compagnon ». Celui-ci doit connaître la signification de la lettre G, et très souvent dans les temples maçonniques il va y avoir la lettre G, qui veut dire aussi bien géométrie que génération, que gravitation, que génie maçonnique, que gnose, hein, la gnose éternelle à laquelle accéderait donc le compagnon maçon. Cette connaissance suprême établie les frères dans une même compréhension du mystère des choses, parce que cette dynamique symbolique entraîne effectivement une fraternité, une certaine fraternité, à voir le monde à travers ce regard symbolique sur les choses. Donc le candidat compagnon va établir 5 voyages, encore une fois dans le temple, très symbolique, entre la colonne Bose, hein, qui est rouge, correspondant au soleil et qui représente la raison active, et la colonne Yakin, blanche, correspondant à la lune, qui représente l'imagination ou l'intuition passive. Vous voyez, vous avez les deux colonnes, mais ça, on le retrouve dans la Bible. Hein. Quand on voit la description du temple, il y avait deux colonnes, une Bose et une Yakim, qui, effectivement, peuvent correspondre à l'homme et la femme. Hein, vous voyez, parce que voilà, le temple correspond à la structure même de l'homme, hein, et de la femme, de notre corps. On peut dire que le temple est notre corps. D'ailleurs, le Christ lui-même, quand il contemple le temple, il dit « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours ». Et c'était de son propre temple, de son propre corps qu'il parlait. Donc quand il est question du temple, il est toujours question du corps personnel, mais aussi du corps conjugal, du corps sociétal, du corps de l'humanité, d'une certaine manière. Voilà. Le parcours symbolique du futur compagnon est de transformer donc cette pierre brute du profane en pierre cubique, dont nous avions parlé tout à l'heure, la pierre taillée. Hein, le maçon va tailler une pierre selon les critères de l'art maçonnique, et cela à l'aide d'outils, le ciseau, le maillet, la règle, le compas, puis le levier. Chacun de ces instruments devenant symbolique dans la maçonnerie spéculative fait l'objet d'une multitude d'interprétations. Vous voyez, donc les planches que vont devoir faire l'apprenti, enfin le compagnon maçon, va être précisément d'élaborer, d'intégrer la symbolique de ces différents éléments, de l'équerre, du compas, etc. Dont des signes aussi, il y a des signes gestuels qui sont secrets, qui vont être révélés et qui déterminent secrètement le grade du frère en maçonnerie. Le compagnon doit connaître la signification de la symbolique du temple dans lequel il se trouve. Donc il va y avoir un pavé mosaïque avec des carrés blancs comme un damier blanc et noir. Par exemple, ce pavé mosaïque constitué de carreaux alternés noirs et blancs comme un damier montre l'incessante et rigoureuse alternance de la loi des contrastes. Nous pouvons y trouver aussi des similitudes avec le yin et le yang. L'étoile flamboyante est le symbole essentiel du grade de compagnon. Une étoile à cinq pointes, comme les quatre membres de l'homme et les quatre éléments de l'air, de l'eau, du feu et de la terre. Voilà, les quatre membres de l'homme, les quatre éléments et la tête qui gouverne avec intelligence les membres et la matière du monde. Mais en magie, elle devient l'étoile du microcosme et le signe de la volonté souveraine, je cite Oswald Wirth, qui est l'irrésistible moyen d'action de l'initié. Renverser l'étoile à cinq pointes prend un sens diamétralement opposé. Une même figure, selon qu'elle est droite ou renversée, devient ainsi le symbole de ce qui est le plus noble dans l'hominalité ou dans l'humanité, ou de brutalement instinctif dans l'animalité. Une force universelle identique est d'ailleurs en jeu. Dans les deux cas, elle s'adapte et se polarise inversement. Voilà tout. Et là, vous voyez, on a cette inclusion du bien et du mal, et l'initié se situe au-delà de ce bien et de ce mal. C'est ainsi que l'initiation suprême opérée par la franc-maçonnerie est explicitement indiquée dans ces quelques lignes d'Oswald Wirth dans son livre sur le compagnon. Alors là, c'est très intéressant. Il parle du serpent séducteur, le serpent de la Genèse. Et voilà ce que dit Oswald Wirth. Le serpent séducteur qui incite à mordre au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolise un instinct particulier, non pas celui de la conservation, mais une impulsion à la fois noble et subtile dont le propre est de faire éprouver à l'individu le besoin de s'élever dans l'échelle des êtres. Donc, pour être clair et lapidaire, le serpent est le symbole de l'initiation suprême. Voilà ce qu'il dit plus loin. Cet aiguillon secret est le promoteur de tous les progrès, de toutes les conquêtes qui entendent la sphère d'action des individus aussi bien que des collectivités. Cela explique pourquoi le serpent, inspirateur de désobéissance, d'insubordination et de révolte, fut maudit par les anciens théocrates, c'est-à-dire tous les chefs des églises, alors qu'il était en honneur parmi les initiés. On ne saurait être plus clair. On ne peut pas être plus clair. C'est écrit noir sur blanc. Hein. Je ne suis pas là dans des interprétations. Hein. Ceux-ci estimaient en effet qu'il ne serait rien y avoir de plus sacré que les aspirations qui nous portent à nous rapprocher progressivement des dieux. « Vous serez comme des dieux, dit le serpent. » Envisagés comme les puissances conscientes chargées de débrouiller le chaos et de gouverner le monde. Rendre semblable à la divinité, tel était l'objet des anciens mystères. Précisément, les mystères dans lesquels nous rentrons dans l'initiation maçonnique nous entraînent progressivement à être dans ce regard supérieur par rapport aux autres, hégémonique par rapport à la mission du monde et de la terre et des hommes, et suprêmement initié. Le mystère se divinisait en se purifiant et en s'élevant moralement et intellectuellement au-dessus du vulgaire des humains. Je cite toujours Oswald Wirth. De nos jours, le programme de l'initiation n'a pas changé. Le maçon moderne se divinise lui aussi, mais il a conscience qu'il ne saurait le faire qu'en travaillant divinement, c'est-à-dire en s'appliquant à parachever la création laissée imparfaite. Élevé au-dessus de l'animalité humaine, le constructeur agent d'exécution du plan divin, se fait Dieu au sens antique du mot. Eh bien, l'initiation suprême est d'être soi-même Dieu, et par conséquent, de se rendre totalement étanche à ce qui serait révélation, sacrement, dogme, et que sais-je, de notre révélation judéo-chrétienne. Il est bien d'autres ces symboles qui décorent le temple, comme l'équerre, le niveau, le compas, qui peuvent être aussi portés en bijoux. Ils ont une signification pratique et une symbolique qui peuvent être déclinées à l'infini. Il y a également, voilà. Donc, voilà. Initiation du maître. Quand il y aura en maçonnerie des maîtres éclairés capables de lire et écrire la langue sacrée, alors notre institution passera du symbole à la réalité. Elle incarnera l'initiation véritable et construira efficacement, effectivement, le temple de la suprême sagesse humaine. Je cite encore donc Oswald Wirth. Il faut au futur maître qu'il donne la preuve d'une confiance aveugle dans ses frères. Nous ne pouvons, bien entendu, dans ce cadre, dire tous les rites et symboles qui permettent l'initiation au grade de maître, mais celui du bandeau et de la coupe d'amertume sont significatifs de l'allégeance que doit manifester le futur maître à l'égard de ses frères de loge et de la franc-maçonnerie. Les yeux bandés, comme le futur apprenti, l'aspirant maître doit boire le calice d'amertume tout en ressentant la chaleur d'un feu à proximité. Dans un silence total, il va ressentir bientôt les effets du vent qui est projeté, et puis il est projeté à terre comme au fond d'une caverne. Dans l'obscurité, un crâne lumineux lui permet de distinguer un catafalque dressé devant lui. Une voix venue d'outre-tombe commence à l'interroger. Vous imaginez l'aspect vraiment macabre de cette mise en scène. Il éprouve symboliquement l'épreuve subie par Hiram, parce que le constructeur du temple de Jérusalem avait été tué par ses compagnons, parce qu'il ne voulait pas révéler les secrets de la fabrication et de la construction du temple. L'architecte du temple de Jérusalem a donc été trahi et tué par des ouvriers qui voulait posséder les clés de son savoir. Le postulant à la maîtrise, le postulant qui veut être maître, fait l'expérience d'une mort symbolique. Bien d'autres détails morbides jalonnent cette initiation. De même qu'une mort volontaire permet seule aux profanes de renaître à la vie supérieure de l'initiation, il faut mourir une seconde fois pour conquérir les prérogatives du maître disparu. Le futur initié va chercher dans les entrailles de la terre une mort symbolique qui lui permettrait d'accéder au mystère en découvrant la parole perdue, c'est-à-dire la clé du secret maçonnique, autrement dit la compréhension de ce qui reste inintelligible aux profanes et aux initiés imparfaits. Le rituel macabre se poursuit. Le récipiendaire joue le rôle du cadavre d'Hiram. Il se met dans la peau du cadavre d'Hiram. Il entend la voix du surveillant chargé des apprentis dire « La chair quitte les os ». Alors l'initié doit répondre, puis l'initié dit « Tout est désuni ». Puis le vénérable intervient en disant « Isolément, nous sommes impuissants. Unissons-nous avec ferveur si nous voulons accomplir des merveilles. formons une chaîne vivante autour de ce cadavre et pour le ranimer, mettons en œuvre les suprêmes ressources de l'art. » Alors, le vénérable, le chef de la loge, va s'approcher et main à main, pied à pied, genou à genou, poitrine contre poitrine, aidé par les deux surveillants, le récipiendaire va être relevé et il reçoit symboliquement, de cette manière-là, sa vie nouvelle. Pour le réveiller, il va entendre tout bas à l'oreille des paroles dites de vie. C'est ainsi qu'il est nommé Mac Bénard. Autrement dit, fils de la putréfaction, ou fils du maître mort qui est Hiram, ou traduit de l'hébreu, il vit dans le Fils. Donc il y a une résurrection d'une certaine manière symbolique de Hiram à travers donc le maître, le nouveau maître. C'est la dernière phase du grand œuvre alchimique. En alchimie, on a d'abord la putréfaction qui tue le sujet, devenu noir comme la tête du corbeau. Ensuite, il va y avoir une sublimation ayant pour effet de libérer la partie volatile ou aérienne, puis l'ablution, lavage d'où résulte la couleur blanche, et enfin la calcination par laquelle le feu est activé jusqu'à l'obtention de la couleur rouge, signe d'achèvement heureux des premières opérations. Il y a donc une symbolique qui peut être comparée également à toute la symbolique de la dynamique que l'on va retrouver en alchimie. Alors le temple, de nouveau, va s'illuminer de toutes les lumières, le rideau s'ouvre, le nouveau maître peut s'entretenir d'égal à égal avec ses frères maîtres, il est apte à communiquer avec les supérieurs inconnus de la tradition qui préside à la création et la transformation du monde. Cette initiation l'ouvre d'une certaine manière, de manière occulte, à tous ceux qui l'ont précédé dans ces rituels d'initiation. Bien d'autres symboles, gestes et paroles parsèment le rituel de l'accès au grade de maître, dont l'objectif est le suivant : chercher le maître qui est en nous, à l'état de cadavre inanimé, faire revivre le mort, afin qu'il agisse en nous. Ça, cette phrase est d'Oswald Wirth encore. La lutte de la franc-maçonnerie contre tout type d'institution, et particulièrement l'Église catholique, mais aussi des institutions politiques ou associatives, quand ces institutions ont une autorité qui n'est pas issue de ces rangs, est explicite, tant chez Oswald Wirth que des maîtres du 33e degré. Quand il parle de ce sujet, eh bien, je vais citer encore Oswald Wirth. Sous quelque régime que ce soit, des prêtres et des rois nous domineront tant que nous n'aurons pas appris à supplanter nous-mêmes prêtres et rois. Le maître s'initiera au mystère de l'art sacerdotal afin de n'être dupe ni du représentant de Dieu qui prenait la félicité dans un autre monde, ni du charlatan politique prétendu détenteur de la panacée universelle mettant fin à toutes les misères sociales. Donc vous voyez, la maçonnerie se situe au-delà de tout type d'institution qui n'est pas issue de ses rangs. L'Église, bien au fait des intentions maçonniques de combattre sa raison même d'exister, la maçonnerie combat la raison même d'exister de l'Église, on l'a bien vu à travers ce que nous avons dit, n'a cessé. Cette Église, l'Église catholique, n'a cessé d'alerter et de condamner la franc-maçonnerie dans des encycliques qui ont une haute autorité dans la hiérarchie des écrits officiels de l'Église. Alors, je ne vais pas vous les citer tous, mais depuis Clément XII en 1738, c'est-à-dire au début des institutions maçonniques, jusque à Léon XIII, voilà. Alors là, il y a un certain nombre d'écrits tout à fait explicites de la part de nos papes jusqu'au XIXe siècle. Ce XIXe siècle florissant en nouvelles congrégations après les martyrs catholiques de la terreur a été l'objet d'un combat de chaque instant entre la maçonnerie et l'Église. Nous n'avons pas idée aujourd'hui de ce combat, mais alors explicite entre la maçonnerie et l'Église au XIXe siècle. Et les premières années de 1900, la République acquise aux idées maçonniques fait fermer 3000 écoles catholiques. 400 congrégations sont interdites. Moines et religieuses sont chassés de leur couvent. 30 000 à 60 000 religieux et religieuses doivent quitter la France dans le début du XXe siècle. L'armée n'est pas en reste. Les officiers sont observés et ceux qui sont appelés Tala, c'est-à-dire ceux qui vont à la messe, sont fichés. C'est l'affaire des fiches en 1901. La loi de séparation de l'Église et de l'État est votée en 1905. Et c'est dans ce contexte que Pie XII écrit une lettre pleine de compassion à la France, aux évêques, aux clergés, au peuple de France en 1907. Donc ensuite Pie XI, et puis aussi Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI, dans l'esprit d'ouverture du Concile Vatican II, ne va pas être aussi explicite. Mais ils entérinent quand même s'ils se sont peu exprimés sur la question, ils rappellent quand même que leur position ne diffère pas de l'enseignement précédent de l'Église sur le sujet de la maçonnerie. Alors il est aujourd'hui connu et reconnu, et parfois revendiqué, que la loi de l'interruption volontaire de grossesse et la récente loi permettant le mariage entre deux personnes du même sexe résulte d'une élaboration faite dans des fraternelles, c'est-à-dire des groupes de maçons issus de professions complémentaires ou identiques qui se réunissent pour infléchir l'opinion publique et les lois de la République dans une direction donnée. Aujourd'hui, l'euthanasie, les toutes dernières recherches en matière de génétique font l'objet d'études allant toujours dans l'accueil de tous les possibles. Les maçons sont maîtres du temple à construire. Le temple, c'est le corps, tant personnel que social, et aucune morale venant d'une révélation ne peut être admise dans l'esprit maçonnique. L'homme initié crée sa propre morale. Il n'y a d'autre Dieu que lui-même. Et là, je vais encore citer Oswald Wirth. La différence résulte du caractère purement humain de la franc-maçonnerie, qui ne se targue de détenir une vérité divinement révélée, mais convie ses adeptes à se dégager de l'erreur par leurs propres efforts pour s'orienter d'eux-mêmes en toute indépendance vers cette lumière de l'esprit à laquelle aspirent les intelligences. Ayons le courage de nous dire religieux. Les francs-maçons, ayons le courage de nous dire religieux et de nous affirmer d'une religion plus sainte que les autres. Propageons la religion de la République qui formera les cœurs des citoyens et cultivera les vertus républicaines. Eh bien, quand vous lisez les récentes déclarations de l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, eh bien, il ne démentirait aucun de ses propos. Nous retrouvons sous sa plume ou sous son maillet les mêmes idées. L'initiation chrétienne. Nous allons comparer maintenant cette initiation maçonnique à l'initiation pratiquée dans les premières communautés chrétiennes et plus particulièrement celle décrite par Saint Cyrille de Jérusalem dans ses catéchèses mystagogiques. Mystagogique vient du mot mystère. Et c'est une initiation progressive au mystère de la révélation, du kérigme, c'est-à-dire de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ. Cyrille est né à Jérusalem aux alentours de l'an 313. Il fut moine ou ascète, érudit et doué pour la parole. Il fut ordonné prêtre, puis évêque. Il subit des persécutions de la part même de l'évêque devenu arien qui l'avait ordonné, car il résista de toutes ses forces à l'hérésie arienne qui contaminait une grande partie de l'Église de l'époque. Non, je ne vais pas redire ce qu'est l'hérésie arienne, mais ça vous pouvez le relire. Voilà. Les catéchèses mystagogiques sont des enseignements dogmatiques pour approcher le mystère du salut en Jésus-Christ. Il y est insisté sur l'absolue nécessité de la conversion pour accueillir pleinement les grâces offertes dans les sacrements d'initiation chrétienne, sacrements d'initiation chrétienne que sont le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Saint Cyrille insiste pour que la vie quotidienne soit conforme à la foi et fleurisse en actions concrètes. Le sacrement n'a rien de magique. Il exige le mouvement de conversion, la purification du cœur, une vie qui respire et agit à la hauteur du Dieu dévoilé. Je vous cite une phrase de Saint Cyrille de Jérusalem dans ses catéchèses, édition Migne. Dans l'Antiquité chrétienne, les trois sacrements d'initiation, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, étaient expliqués par les pasteurs après leur réception. C'est assez curieux, hein ? Donc, il y avait toute une pré-catéchèse, une catéchèse pré-baptismale, mais la signification réelle était donnée après avoir reçu le baptême. Le catéchumène recevait donc ses sacrements dans un acte de foi, et ce n'est qu'ensuite, durant la semaine pascale, que le pasteur, en général l'évêque du lieu, expliquait les rites, les figures bibliques et leurs relations aux évangiles. Saint Cyrille en explique la raison. Ce n'est pas d'aujourd'hui, fils authentique et bien-aimé, que j'aspirais à vous entretenir des hauts secrets de l'esprit et du ciel. Mais comme je savais bien que l'on croit plus facilement ce que l'on voit que ce que l'on entend, j'ai patienté jusqu'à ce moment. Je vous prends donc au sortir de votre expérience pascale, particulièrement disposé à écouter ma parole, pour vous conduire par la main vers la prairie toute lumineuse et parfumée du paradis. Vous voici donc désormais capable des plus divins mystères, dès là que vous avez été admis au saint baptême qui donne la vie. Puis donc, qu'il nous incombe encore de vous avancer la table des connaissances réservées aux initiés. Courage. Donc vous voyez cette pédagogie extrêmement délicate qui permet d'approcher au mystère d'un Dieu qui nous aime et qui vient se révéler et qui nous donne sa vie. La maternité de l'Église prend tout son sens des fonts baptismaux. Comme du sein maternel naissent les fils et les filles de Dieu. Vous voyez, on est en même temps dans quelque chose qu'on peut... Hein, les fils de la maçonnerie et les fils qui naissent de l'Église, qui naissent par le baptême. Il y a des analogies possibles, mais vous voyez que la dynamique n'est pas la même. Le baptême couronnait un long chemin de purification commencé après le carême. Toute la liturgie manifestait par des signes sensibles les mystères qui s'accomplissaient. Le renoncement aux démons se faisait tourner vers l'Occident, c'est-à-dire là où le soleil se couche. Donc il y avait aussi une expérience sensible qui était donnée de vivre aux catéchumènes. Dans la direction où apparaissent les ténèbres, hein, quand le soleil se couche, c'est la nuit noire. Et donc la renonciation à Satan se faisait vers l'Occident. Cyrille rappelle aux nouveaux baptisés ce qu'ils ont dit lors de leur renonciation à Satan. « Je te renie, Satan, toi le tyran mauvais et très cruel. » Le Christ a en effet anéanti ta force en participant à un sang et une chair qui sont miens, c'est-à-dire en prenant notre humanité. Ainsi a-t-il voulu détruire la mort par sa mort pour m'éviter d'être réduit en esclavage. Je te renie, toi et le serpent rusé et plein de malfaisance. Je te renie, le serpent adulé. Dont on a vu qu'il était... Voilà. Je te renie, traître, qui sous les couleurs de l'amitié a provoqué toute désobéissance et qui a inspiré à nos premiers parents leur infidélité. Je te renie, Satan, auteur et complice de tout mal. L'aspirant au baptême rejette ensuite toutes les œuvres, les armes et les fastes du culte de Satan. Donc on retrouve ça dans le rituel du baptême. Hein. On commence toujours par un exorcisme. Puis la confession baptismale, le credo, était proclamé, cette fois-ci tourné vers l'Orient, le pays de la lumière, et où se situe le paradis de Dieu. Vient ensuite la disposition des vêtements, signifiant le dépouillement du péché, du vieil homme et de ses œuvres. Vous voyez le parallèle avec l'initiation de l'apprenti qui va être débraillé, lui. Comme le Christ nu, sur la croix, le futur baptisé se dénude. Il est ensuite frotté d'huile exorcisée sur tout le corps. De même que l'insufflation des saints et l'invocation du nom de Dieu comme une flamme très ardente brûle les démons et les met en fuite, ainsi cette huile exorcisée par invocation et prière à Dieu reçoit une telle puissance que non seulement en brûlant les vestiges, elle purge les péchés, mais encore elle fait fuir toutes les puissances invisibles du mauvais. Ainsi, le catéchumène entre dans le baptistère pour y être immergé par trois fois, pour y être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, trois fois, symbolisant aussi, pour Cyrille de Jérusalem, le tridium du Christ au tombeau. Voilà. Le baptême est en même temps donc une purification des fautes et une grâce d'adoption. Nous devenons fils et fille de Dieu. Alors, puis ensuite la chrismation qui correspond à la confirmation. Donc, je passe, hein, parce que voilà, le temps va nous être compté. Voilà. Nous observons donc que si les symboles de la terre, de l'eau, du souffle et de la lumière, qui ont une forte charge anthropologique, sont les mêmes dans l'initiation maçonnique et l'initiation chrétienne, leurs objectifs, leurs fonctions sont radicalement opposés. La maçonnerie voit dans son rituel une fonction purement symbolique dont la force symbolique est opératoire. Celui qui vit l'initiation accède à la lumière de la loge. La réception de cette lumière joue sur une expérience des sens, mais aussi sur la peur. Le récipiendaire étant enfermé avant l'accès à cette lumière dans le caveau symbolisant les entrailles de la terre pour y faire son testament environné d'objets qui rappellent la mort. Puis le futur apprenti est débraillé, aveuglé par le bandeau et doit faire confiance à celui qui va le faire pénétrer dans la loge. Les similitudes avec les rituels religieux et les écritures ajoutent à la confusion. Nous l'avons vu, hein, quand des phrases même de l'Évangile sont... En laissant croire à ceux qui le voudraient que la franc-maçonnerie est une démarche spirituelle, originale. L'amour des frères en maçonnerie est assez éloigné de l'amour du prochain demandé par le Christ, d'autant plus que la démarche maçonnique conduit plutôt à un égocentrisme conforté par le sentiment d'appartenir à un corps d'élite. Je vais dire quelques mots maintenant rapides sur, là nous étions donc dans la catéchèse des premiers chrétiens, parce qu'on retrouve toute cette symbolique, hein, et on le retrouve aujourd'hui dans nos rituels chrétiens, mais on a peut-être un peu, on s'est un peu échappé de la symbolique de l'espace, hein, avec l'Orient, l'Occident, etc. Hein, donc, voilà. Et là, on va essayer de rentrer dans l'expérience spirituelle de saint Jean de la Croix et de saint Thérèse d'Avila. Donc ce chapitre-là est très inspiré, bien entendu, de « Je veux voir Dieu » du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. La vie divine en nous, le royaume de Dieu auquel a accès en toute gratuité le nouveau baptisé, confirmé, se développe comme le grain de CNV qui, mis en terre, est la plus petite des graines, mais poussé devient plus grand que toutes les plantes potagères et fait de grandes branches. Sainte Thérèse d'Avila éclaire ce qui se passe lors de la croissance spirituelle à l'image d'un château intérieur. Ce château présente 7 demeures avec des annexes qui sont de plus en plus éclairées au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre de ce château où demeure Dieu, le foyer de la lumière. La perfection, l'objectif spirituel est dans l'union parfaite avec Dieu, c'est l'union transformante ou mariage spirituel. Sainte Thérèse observe ce qui se passe en elle. Il est des étapes où l'union à Dieu s'intensifie progressivement, sans parler de la première demeure où l'âme est embarrassée encore par les préoccupations du monde. Dans la première demeure, elle est encore attachée à toutes les passions. Et donc, elle est ambivalente. Mais progressivement, au fur et à mesure qu'elle fait le choix, eh bien, on va découvrir les différentes demeures de Sainte Thérèse d'Avila. Ainsi, dans les troisièmes demeures, l'activité de l'âme est aidée par la grâce. Dans les cinquièmes demeures, la volonté de Dieu devient sienne. Que ta volonté soit faite. Le que ta volonté soit faite du Notre Père devient une évidence vécue. Il y a une progressive attirance, comme dans le Notre Père, à faire en sorte que cette prière nous est tellement proche qu'elle est nôtre. Les septièmes demeures sont éclairées par l'union transformante. Les saints de l'Église catholique sont représentés avec une auréole qui manifeste qu'ils sont dans la lumière de Dieu. Donc vous voyez, la lumière artificielle du temple maçonnique est celle progressive de touches très très délicates d'une pédagogie divine qui progressivement entraîne, mais jamais contre la volonté de la personne, la liberté vers ce désir d'être de plus en plus en dialogue d'amitié, comme dirait Sainte Thérèse, avec Dieu. Les trois autres demeures sont des étapes de purification éprouvante. Donc vous voyez, il y a des étapes qui sont des étapes de grâce et d'autres de purification. La sécheresse règne aux deuxièmes demeures. La nuit des sens, que Saint Jean de la Croix appelle purification passive des sens, habite les quatrièmes demeures. Encore plus éprouvante est la nuit de l'esprit des sixièmes demeures. Un double mouvement s'opère dans cette histoire de l'âme, ou plutôt deux forces vivantes tentent de se rejoindre et de s'unir. L'amour de Dieu pour l'homme et l'amour de l'âme pour Dieu. Dans une première phase qui inclut les trois premières demeures, Dieu laisse l'initiative et la direction à l'âme en sa vie spirituelle. Ça veut dire que au début de la vie spirituelle, eh bien, c'est Dieu laisse finalement l'âme se diriger elle-même un peu, de se faire les efforts qu'elle croit pour se débarrasser de ses passions, mais elle lui laisse l'initiative. Et puis, dans un deuxième temps, Dieu assure à l'âme sa grâce, donc dite ordinaire, et quand le désir de Dieu devient plus intense, à partir des quatrièmes demeures jusqu'aux septièmes demeures, Dieu intervient par un secours dit particulier. La progression de la docilité et de la confiance de l'âme deviennent telles que Dieu prend lui-même l'initiative et la guide plus directement. Par le recueillement, la quiétude ou la sécheresse contemplative, Dieu oriente les sens, chacun de nos sens, vers l'esprit, l'adapte aux opérations surnaturelles dont l'esprit est le siège et l'habitue à supporter paisiblement le mystère toujours obscur de la présence de Dieu est souvent douloureux parce que nos sens ne sont pas encore habitués à voir cette lumière incréée, la lumière du ressuscité. Sainte Thérèse d'Avila ne reprend pas la division en voie purgative des commençants, illuminative des progressants ou voie unitive. Mais nous voyons ici que la voie purgative correspond aux deuxième, quatrième et septième demeures, c'est ce que nous disions, et la voie illuminative aux troisième, cinquième et septième demeures. Le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, en homme averti sur le chemin de l'âme vers Dieu, prend le soin d'expliquer. La raison humaine doit renoncer à imposer sa mesure et à retrouver sa logique dans les activités de la miséricorde de Dieu. Vous voyez ? Donc la logique de cette relation de l'âme avec Dieu dépasse toutes nos perspectives, tous nos plans sur la comète. Voilà, c'est véritablement dans cette confiance progressivement de plus en plus grande que l'âme se laisse guider. Et par conséquent, on n'est pas là dans l'échafaudage d'un plan de carrière, si je peux m'exprimer ainsi. Elle ne peut que constater que Dieu appelle en son intimité en peu de temps des hommes qui en étaient notoirement indignes. Il y a des personnes qui peuvent accéder très rapidement à un état de sainteté alors qu'ils en étaient indignes. Et que donc d'autres semblent ignorer certaines étapes et se trouvent soudain les ayant franchies. Saül, le persécuteur, a été terrassé sur le chemin de Damas et est devenu en peu de temps Paul, le grand apôtre des gentils. Donc, vous voyez, il n'y a pas de... Ça ne correspond pas à nos logiques de croissance. Nous voyons dans cette initiation à la vie spirituelle que c'est toujours Dieu qui a l'initiative de la croissance, même si cette croissance ne peut s'opérer sans la liberté de l'homme qui répond à l'amour de Dieu. En aucun cas, cette initiation est mécanique et confère des grades comme dans la maçonnerie. Nous sommes avec la vie spirituelle chrétienne dans un processus inverse, car la seule croissance qui permet d'atteindre la lumière de la septième demeure, du château intérieur, est une croissance en humilité et en docilité à l'Esprit-Saint. Il ne s'agit donc pas d'entrer dans un caveau artificiellement construit par des hommes. Il ne s'agit pas de reproduire une symbolique qui peut faire impression sur la dimension psychologique de l'homme en produisant des expériences sensibles qui font impression et qui donnent le sentiment d'appartenance à une fraternité où chacun est passé par ces mêmes épreuves afin d'y être admis. Dans la vie spirituelle décrite par Sainte Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix, le cheminement est constaté, il n'est pas provoqué. Bien sûr, ce chemin ne peut s'opérer que dans une âme désirante de s'approcher de Dieu. Saint Jean de la Croix va décrire ces nuits où s'opère le passage de l'âme à l'union divine. On les appelle nuits parce que l'âme y chemine comme de nuit et en obscurité. Nuit qui veut dire ici dépouillement et privation. Comme dans chacune des nuits naturelles, la nuit peut se diviser en trois parties. C'est très important. On va voir ça dans la nuit obscure de Saint Jean de la Croix. Trois parties. Quand le soleil commence à décliner progressivement, la pénombre s'installe, puis le noir le plus complet, quand la lune et les étoiles sont cachées derrière les nuages. Les sens peuvent garder un moment en mémoire le souvenir de la clarté et de son déclin. Saint Jean de la Croix compare ce moment à la purification passive des sens. Purification passive, dans laquelle la personne qui veut suivre le Christ est plongée sans effort, c'est passif. Passive car l'âme y est soumise comme nous pouvons être soumis aux effets de la nature. Le surnaturel agit analogiquement au naturel. Et puis vient le milieu de la nuit où tout est profondément obscur. Et c'est pour Saint Jean de la Croix la nuit de l'esprit où seule la foi demeure sans aucune consolation sensible, psychologique ou spirituelle. Et nous voyons ça dans la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, la nuit. Cette nuit obscure, profonde, prépare à une nouvelle vision. Une vision d'aurore. Une vision renouvelée dans l'amour de Dieu qui ouvre à une beauté, une vérité et une justice surnaturelle. Les sens spirituels sont éveillés à la vie théologale, c'est-à-dire infusée par l'Esprit-Saint, qui trouve sa demeure dans l'âme de celui qui s'est laissé conduire dans la foi et l'espérance en Dieu seul, et le conduit à aimer Dieu comme Dieu nous aime. La purification passive des sens est une période qui ne dépense pas celui qui cherche Dieu d'une préalable purification active par des efforts d'ascèse et de prière. Cette purification active prépare et permet d'accueillir la purification passive qui ne peut pas être provoquée. Seul Dieu en a l'initiative. Mais cette purification passive exige notre coopération énergique et douloureuse. Saint Paul ne compare-t-il pas celui qui veut suivre le Christ au coureur du stade qui se plie à beaucoup d'efforts pour remporter le prix du vainqueur? Ainsi, dans une première phase préparatoire, Dieu n'intervient pas directement dans la vie spirituelle de l'âme. Celle-ci garde l'initiative de son activité spirituelle et conduit donc cette nuit active selon ses vouloirs. Mais dans la deuxième phase, au contraire, où nuit active et nuit passive du sens vont de pair, l'intervention de Dieu prend la direction de la vie spirituelle, enlève à l'âme l'initiative et l'oblige à la soumission de l'action de Dieu. Mais une soumission qui rend l'âme de plus en plus libre. C'est un paradoxe. Les grands mystiques catholiques décrivent ce mouvement inouï où celui qui veut suivre les Christ est conduit mystérieusement dans un chemin de passion, de mort et de résurrection. Et voilà le poème de Saint Jean de la Croix, Cantique de la Nuit. « Et je n'apercevais rien pour me guider que la lumière qui brûlait dans mon cœur. Elle me guidait plus sûrement que la lumière de midi, au but où m'attendait celui que j'aimais, là où nul autre ne se voyait. » Alors on va conclure. Ça va être court. Nous ne pouvons que constater qu'en nous comparant, même très succinctement, comme nous venons de le faire, des auteurs référents dans l'initiation maçonnique, ici Oswald Wirth, et des docteurs de l'Église, ici Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila, dans leur description de l'itinéraire de l'âme vers Dieu, nous aboutissons à une logique de cheminement inverse. Les mots de lumière, de nuit, d'eau, de feu, de souffle, de germination peuvent être les mêmes. Les expériences de confrontation à la nuit, à la mort, au dénuement, peuvent être similaires. Les expériences anthropologiques peuvent être comparables, mais les objectifs et les moyens employés divergent fondamentalement. L'initiation maçonnique procède par épreuves provoquées qui produisent des effets contrôlés. La lumière reçue dans la loge est préparée suite à un conditionnement psychophysique d'expérience de vulnérabilité. C'est la purification active puis passive des sens du disciple du Christ qui lui ouvre les yeux du cœur pour contempler la lumière surnaturelle du ressuscité. L'aspirant à devenir maître en franc-maçonnerie doit singer le parcours d'Hiram, tué par ses frères, et dont l'esprit revit quand le vénérable de la loge, pied à pied, corps à corps, relève l'aspirant maçon, mimant la mort, pour qu'il perpétue ce mythe fondateur de la maçonnerie. La nuit de l'esprit, décrite par Saint Jean de la Croix, peut être assimilée aussi à une expérience de mort. Nous l'avons vu, seul Dieu a l'initiative, car seul Dieu nous fait réellement passer de la mort à la résurrection. Nous sommes là au cœur de notre foi et de notre espérance chrétienne, au cœur de ce mystère d'amour infini de Dieu, Trinité Sainte. Dieu, en Jésus-Christ, s'est fait chair et il habitait parmi nous. Il nous a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Très intéressante, parce que la question du serpent nous dit... Qu'est-ce que c'est que le serpent ? Le serpent, c'est donc l'animal tentateur. Il est dit dans la Genèse qu'il est le plus rusé ou le plus nu. On peut dire les deux. En hébreu, le plus nu ou le plus rusé de tous les animaux de la création. Et il commence à rentrer en dialogue avec la femme. il commence à rentrer en dialogue avec la... C'est très intéressant, pourquoi la femme ? Alors, les pères de l'Église disent, mais parce que l'homme était établi gardien, il devait garder et cultiver le jardin. Et donc, il a laissé rentrer le serpent. Donc, la question de la femme n'est pas une question réelle, c'est une question aussi de vigilance que l'homme n'a pas exercée par rapport à... Bon. Peu importe. Donc, le serpent commence à rentrer dans ce dialogue et il dit, voilà ce que dit le serpent... Il gauchit très légèrement ce que dit Dieu. Dieu avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf de ce fruit, de la connaissance du bien et du mal. Et le serpent arrive en disant, alors Dieu a dit, vous ne pourrez pas manger de tous les fruits. Ouais. Donc on rentre déjà dans un gauchissement de la question. Et le serpent dit à la femme, mais non, pas du tout. Si vous en mangez, vos yeux vont se dessiler, vous ne connaîtrez pas la mort et vous serez comme des dieux. C'est ça la promesse du serpent. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la physiologie du serpent. Le serpent est un animal rampant. Donc il n'a de vision du monde que l'horizontalité de la matière. Il ne voit que la matière du monde. Le serpent est incapable de lever le regard. C'est-à-dire de lever le regard sur un au-delà de cette matière. Il est incapable de lever le regard sur le créateur de cette matière. Or, l'expression « lever le regard » traverse l'histoire de la Bible. Au moment où Abraham est prêt de sacrifier son fils Isaac, ayant levé le regard, il a vu le bélier qui était pris dans les épineux. Et donc cette phrase-là, de lever le regard, va traverser la Bible jusque dans Marc, où les femmes... ayant levé le regard, on observait que la pierre avait été roulée en arrière. Donc, cette levée de regard, le serpent en est absolument incapable. Il ne voit que l'horizontalité de la matière du monde. Hein? Donc déjà, rentrer dans ce regard du serpent, c'est de ne voir que la matière de ce monde. Or, ce serpent, dans son regard, n'a pas de paupières. Donc, il n'a absolument pas de repos. Il est dans une vigilance permanente. Or, l'acte de création en 6 jours nous entraîne dans le repos en Dieu. Mais le serpent n'est jamais dans le repos. Il est toujours dans la vigilance à l'égard de cette matière du monde. Donc il a une intelligence toute particulière. Alors, il est capable d'épouser toutes les formes, dans une sinuosité, et dès qu'il voit une faille, paf, il fout la tête. Et les pères disent, une fois qu'il a mis la tête, c'est tout en entier qui rentre. Et le serpent a cette particularité physiologique de ne pas pouvoir faire marche arrière. Une fois qu'il a foutu la tête quelque part, il y va en entier. Donc le serpent a cette deuxième particularité de ne pas pouvoir se convertir, de dire « je me suis trompé, pardon ». Il est toujours, toujours, toujours à la recherche d'interstices et de failles. Et ça en dit long sur notre vie spirituelle, si nous laissons entrer le serpent. Et si nous rentrons encore dans ce regard de serpent, nous ne rentrons jamais dans la repentance. Donc ça, c'est une deuxième chose. Le serpent a le sang-froid. Il n'est pas comme nous, il a le sang-froid. C'est-à-dire qu'il n'a aucune émotion. Donc il agit sans aucune émotion, sans aucun affect, sans aucun changement d'humeur, puisque voilà, il peut agir de sang-froid. Quand on est au-delà du bien et du mal, eh bien on est dans ce sang-froid, d'une certaine manière initiatique, qui nous permet de tout faire sans avoir aucun remords non plus. Donc vous voyez encore un attribut du serpent. Alors le serpent aussi a quelque chose de tout à fait particulier, c'est qu'il a une langue bifide. Hein ? Il a une langue bifide. Ça veut dire exactement comme dans le serpent. Il dit le vrai, mais il dit le faux en même temps. Donc on ne sait plus. Il est dans le mélange. Et nous entraîne progressivement à regarder ce monde dans un regard de mélange. Et finalement, de tohu-bohu. C'est une force régressive. Voilà, donc ça c'est aussi un point important par rapport à la physiologie du serpent. Et puis, le serpent est ovivivipare ou vivivore. Voilà, en tout cas... Comment ?
Il change de peau.
Alors, il change de peau, oui, aussi. Donc voilà. Mais quand il a des petits serpents... Et c'est très intéressant, parce que le petit serpent, parmi les animaux, est un animal qui n'a pas besoin de ses parents. Contrairement à beaucoup d'animaux, il ne rentre pas dans un processus de filiation. Donc il rentre dans un processus d'expérimentation par lui-même et en lui-même, sans se reconnaître, sans se recommander d'une filiation. Donc voilà encore un autre attribut du serpent qui nous permet de Je pense que j'en oublie, mais ça donne quelques éléments sur
vibration.
Pardon. Ah ça c'est très important. Ouais. Le serpent n'a pas d'oreille. Donc il perçoit le monde à travers la dynamique vibratoire. Eh bien, tout le magnétisme, toute la somnambulité, enfin tout ce qui est de l'ordre de la médiumnité est de l'ordre de rentrer en fusion avec l'autre, dans une perception transpersonnelle qui n'a pas plus besoin du langage. Parce que le serpent n'a pas d'oreille, donc il perçoit la vibration du monde. Donc il rentre directement dans ce rapport avec l'autre, mais d'une manière fusionnelle et confusionnelle. Parce qu'il n'a pas cette perspective de la langue, donc le serpent n'a pas d'oreille, il n'a pas d'ouïe. Or le verbe « ouïr » a donné en français le verbe « obéir ». Et « obéir », c'est obéir à une parole qui transcende précisément la matière du monde. Or, ce serpent n'a de vibration qu'avec cette matière du monde, et une intelligence extrême de cette matière du monde, mais il n'a pas d'oreille pour écouter la parole qui crée ce monde, la parole créatrice et recréatrice en Jésus. Donc, vous voyez, c'est aussi important. Comme attribut. Alors quand nous rentrons dans ce regard du serpent, le maître de l'initiation d'une certaine manière, eh bien nous pouvons avoir une logique de maîtrise inouïe par rapport à la matière du monde, mais pas de différenciation par rapport à cette matière, et donc nous rentrons dans une fusion, confusion avec cette matière du monde, et nous ne sommes pas fils et filles de Dieu. Je suis clair.
Et le serpent est un symbole classique dans les représentations maçonniques. Non,
pas de serpent dans les... Pas forcément vraiment, oui. Non. C'est chez les initiés, on va le retrouver, le serpent. Oui.
Alors, c'est intéressant parce qu'on avait visité des caves creusées à Provins. Vieille ville. Et il y a tout un système de caves en dessous creusées qui ont servi à construire les maisons, etc. Et le guide nous disait, ben oui, voilà, vous allez voir, il y a des symboles maçonniques, ça a servi longtemps. Je me demande même si ça ne sert pas encore. Mmh. Parce qu'effectivement, tout ce que tu as dit sur les parois, etc., on les retrouvait dans les grottes de Provins, en pleine ville.
Mais ça a une force archétypale, symbolique très très forte, tout ce...